Ursule Mirouette, première partie, troisième fichier. À une assez grande distance du docteur et d'Ursule, Madame de Portenduère se traînait en paraissant accablée de douleur. Elle appartenait à ce genre de vieilles femmes dans le costume desquelles se retrouve l'esprit du dernier siècle, qui porte des robes couleur pensée, à manches plates et d'une coupe dont le modèle ne se voit que dans les portraits de Madame Lebrun. Elles ont des mantelets en dentelle noire et des chapeaux de forme passés en harmonie avec leur démarche lente et solennelle. On dirait qu'elles marchent toujours avec leurs paniers et qu'elles les sentent encore autour d'elles, comme ceux à qui l'on a coupé un bras agitent parfois la main qu'ils n'ont plus. Leurs figures longues, blêmes, à grands yeux meurtris, au front fané, ne manquent pas d'une certaine grâce triste, malgré des tours de cheveux dont les boucles restent aplaties. Elles s'enveloppent le visage de vieilles dentelles qui ne veulent plus badiner le long des joues. Mais toutes ces ruines sont dominées par une incroyable dignité dans les manières et dans le regard. Les yeux ridés et rouges de cette vieille dame disaient assez qu'elle avait pleuré pendant la messe. Elle allait comme une personne troublée et semblait attendre quelqu'un, car elle se retourna. Or, Madame de Portenduère, se retournant, était un fait aussi grave que celui de la conversion du docteur Minoret. « À qui Madame de Portenduère en veut-elle ? » dit Madame Massin en rejoignant les héritiers, pétrifiés par les réponses du vieillard. « Elle cherche le curé, » dit le notaire Dionis, qui se frappa le front comme un homme saisi par un souvenir ou par une idée oubliée. « J'ai votre affaire à tous, et la succession est sauvée. Allons déjeuner gaiement chez Madame Minoret. » Chacun peut imaginer l'empressement avec lequel les héritiers suivirent le notaire à la poste. Goupil accompagna son camarade, bras dessus, bras dessous, en lui disant à l'oreille, avec un affreux sourire, « Il y a de la crevette. »«
Qu'est-ce que cela me fait ? »
lui répondit le fils de famille en haussant les épaules. « Je suis amoureux fou de Florine, la plus céleste créature du monde. »
« Qu'est-ce que c'est que Florine tout court ?» demanda Goupil.
« Je t'aime trop pour te laisser dindonner par des créatures. »
« Florine est la passion du fameux Nathan, et ma folie est inutile, car elle a positivement refusé de m'épouser. »
« Les filles folles de leur corps sont quelquefois sages de la tête, » dit Goupil.
« Si tu la voyais seulement une fois, tu ne te servirais pas de pareilles expressions, »
dit langoureusement Désiré.
« Si je te voyais briser ton avenir pour ce qui doit n'être qu'une fantaisie, » reprit Goupil avec une chaleur à laquelle Bongrand eût peut-être été pris, « j'irais briser cette poupée comme Varney brise Ami Robsart dans Kenilworth. Ta femme doit être une d'Aiglemont, une mademoiselle du Rouvre. » Et te faire arriver à la députation. Mon avenir est hypothéqué sur le tien, et je ne te laisserai pas commettre de bêtises.
Je suis assez riche pour me contenter du bonheur, répondit Désiré.
Eh bien, que complotez-vous donc là ?
Dit Zélie à Goupil en hélant les deux amis restés au milieu de sa vaste cour. Le docteur disparut dans la rue des Bourgeois, et arriva tout aussi lestement qu'un jeune homme à la maison où s'était accompli, pendant la semaine, l'étrange événement qui préoccupait alors toute la ville de Nemours et qui veut quelques explications pour rendre cette histoire et la communication du notaire aux héritiers parfaitement claires. Le beau-père du docteur, le fameux claveciniste et facteur d'instruments, Valentin Mirouette, un de nos plus célèbres organistes, était mort en 1785, laissant un fils naturel, le fils de sa vieillesse, reconnu, portant son nom, mais excessivement mauvais sujet. À son lit de mort, il n'eut pas la consolation de voir cet enfant gâté. Chanteur et compositeur, Joseph Mirouette, après avoir débuté aux Italiens sous un nom supposé, s'était enfui avec une jeune fille en Allemagne. Le vieux facteur recommanda ce garçon, vraiment plein de talent,
à son gendre en lui faisant observer qu'il avait refusé d'épouser la mère pour ne faire aucun tort à Madame Minoret. Le docteur promit de donner à ce malheureux la moitié de la succession du facteur, dont le fonds fut acheté par Erard. Il fit chercher diplomatiquement son beau-frère naturel, Joseph Mirouette. Mais Grimm lui dit un soir, après s'être engagé dans un régiment prussien, « L'artiste avait déserté, prenant un faux nom, et déjoué toutes les recherches. » Joseph Mirouette, doué par la nature d'une voix séduisante, d'une taille avantageuse, d'une jolie figure, et par-dessus tout, compositeur plein de goût et de verve, mena pendant 15 ans cette vie bohémienne que le berlinois Hoffmann a si bien décrite. Aussi, vers 40 ans, fut-il en proie à de si grandes misères qu'il saisit en 1806 l'occasion de redevenir français. Il s'établit alors à Hambourg, où il épousa la fille d'un bon bourgeois, folle de musique, qui s'éprit de l'artiste, dont la gloire était toujours en perspective, et qui voulut s'y consacrer. Mais après 15 ans de malheur, Joseph Mirouette ne sut pas soutenir le vin de l'opulence. Son naturel dépensier reparut, et, tout en rendant sa femme heureuse, il dépensa sa fortune en peu d'années. La misère revint. Le ménage dut avoir traîné l'existence la plus horrible pour que Joseph Mirouette en arrivât à s'engager comme musicien dans un régiment français. En 1813, par le plus grand des hasards, le chirurgien-major de ce régiment, frappé de ce nom de Mirouette, écrivit au docteur Minoret auquel il avait des obligations. La réponse ne se fit pas attendre. En 1814, avant la capitulation de Paris, Joseph Mirouette eut à Paris un asile où sa femme mourut en donnant le jour à une petite fille que le docteur voulut appeler Ursule, le nom de sa femme. Le capitaine de musique ne survécut pas à la mère, épuisé comme elle de fatigues et de misères. En mourant, l'infortuné musicien légua sa fille au docteur, qui lui servit de parrain, malgré sa répugnance pour ce qu'il appelait les momeries de l'Église. Après avoir vu périr successivement ses enfants par des avortements, dans des couches laborieuses ou pendant leur première année, le docteur avait attendu l'effet d'une dernière expérience. Quand une femme malingre, nerveuse, délicate, débute par une fausse couche, il n'est pas rare de la voir se conduire dans ses grossesses et dans ses enfantements comme s'était conduite Ursule Minoret, malgré les soins, les observations et la science de son mari. Le pauvre homme s'était souvent reproché leur mutuelle persistance à vouloir des enfants. Le dernier, conçu après un repos de 2 ans, était mort pendant l'année 1792, victime de l'état nerveux de la mère, s'il faut donner raison aux physiologistes qui pensent que, dans le phénomène inexplicable de la génération, l'enfant tient au père par le sang et à la mère par le système nerveux. Forcé de renoncer aux jouissances du sentiment le plus puissant chez lui, la bienfaisance fut sans doute pour le docteur une revanche de sa paternité trompée. Durant sa vie conjugale, si cruellement agitée, le docteur avait, par-dessus tout, désiré une petite fille blonde, une de ces fleurs qui font la joie d'une maison. Il accepta donc avec bonheur le legs que lui fit Joseph Mirouette et reporta sur l'orpheline les espérances de ses rêves évanouis. Pendant 2 ans, il assista, comme fit jadis Caton pour Pompée, aux plus minutieux détails de la vie d'Ursule. Il ne voulait pas que la nourrice lui donnât à téter, la leva, la coucha sans lui. Son expérience, sa science, tout fut au service de cet enfant. Après avoir ressenti les douleurs, les alternatives de crainte et d'espérance, les travaux et les joies d'une mère, il eut le bonheur de voir, dans cette fille de la blonde allemande et de l'artiste français, une vigoureuse vie, une sensibilité profonde. L'heureux vieillard suivit avec les sentiments d'une mère les progrès de cette chevelure blonde, d'abord duvet, puis soie, puis cheveux légers et fins, si caressants aux doigts qui les caressent. Il baisa souvent ses petits pieds nus, dont les doigts, couverts d'une pellicule sous laquelle le sang se voit, ressemblent à des boutons de rose. Il était fou de cette petite. Quand elle s'essayait au langage, ou quand elle arrêtait ses beaux yeux bleus, si doux, sur toute chose, en y jetant ce regard songeur qui semble être l'aurore de la pensée, et qu'elle terminait par un rire, il restait devant elle pendant des heures entières, cherchant avec Jordi les raisons, que tant d'autres appellent des caprices, cachées sous les moindres phénomènes de cette délicieuse phase de la vie, où l'enfant est à la fois une fleur et un fruit, une intelligence confuse, un mouvement perpétuel, un désir violent. La beauté d'Ursule, sa douceur, la rendait si chère au docteur qu'il aurait voulu changer pour elle les lois de la nature. Il dit quelquefois au vieux Jordi avoir mal dans ses dents quand Ursule faisait les siennes. Lorsque les vieillards aiment les enfants, ils ne mettent pas de bornes à leur passion, ils les adorent. Pour ces petits êtres, ils font taire leur manie, et pour eux, se souviennent de tout leur passé. Leur expérience, leur indulgence, leur patience, toutes les acquisitions de la vie, ce trésor si péniblement amassé, ils le livrent à cette jeune vie par laquelle ils se rajeunissent, et supplèrent alors à la maternité par l'intelligence. Leur sagesse, toujours éveillée, vaut l'intuition de la mère. Ils se rappellent les délicatesses qui, chez elles, sont de la divination, et ils les portent dans l'exercice d'une compassion dont la force se développe sans doute en raison de cette immense faiblesse. La lenteur de leurs mouvements remplace la douceur maternelle. Enfin, chez eux comme chez les enfants, la vie est réduite au simple. Et si le sentiment rend la mère esclave, le détachement de toute passion et l'absence de tout intérêt permettent aux vieillards de se donner en entier. Aussi n'est-il pas rare de voir les enfants s'entendre avec les vieilles gens. Le vieux militaire, le vieux curé, le vieux docteur, heureux des caresses et des coquetteries d'Ursule, ne se lassait jamais de lui répondre ou de jouer avec elle. Loin de les impatienter, la pétulance de cet enfant les charmait, et il satisfaisait à tous ses désirs en faisant de tout un sujet d'instruction. Ainsi cette petite grandit environnée de vieilles gens qui lui souriaient et lui faisaient comme plusieurs mères autour d'elle, également attentive et prévoyante. Grâce à cette savante éducation, l'âme d'Ursule se développa dans la sphère qui lui convenait. Cette plante rare rencontra son terrain spécial, aspira les éléments de sa vraie vie et s'assimila les flots de son soleil. « Dans quelle religion élèverez-vous cette petite ?» demanda l'abbé Chaperon à Minoret quand Ursule eut 6 ans. « Dans la vôtre, » répondit le médecin. Athée à la façon de monsieur de Volmar dans La Nouvelle Héloïse, il ne se reconnut pas le droit de priver Ursule des bénéfices offerts par la religion catholique. Le médecin, assis sur un banc au-dessous de la fenêtre du cabinet chinois, se sentit alors la main pressée par la main du curé. « Oui, curé, toutes les fois qu'elle me parlera de Dieu, je la renverrai à son ami Sapron, » dit-il en imitant le parler enfantin d'Ursule. « Je veux voir si le sentiment religieux est inné. Aussi n'ai-je rien fait pour, ni rien contre, les tendances de cette jeune âme. Mais je vous ai déjà nommé dans mon cœur son père spirituel.
« Ceci vous sera compté par Dieu, je l'espère, » répondit l'abbé Chaperon en frappant doucement ses mains l'une contre l'autre et les élevant vers le ciel comme s'il faisait une courte prière mentale.
Ainsi, dès l'âge de 6 ans, la petite orpheline tomba sous le pouvoir religieux du curé, comme elle était déjà tombée sous celui de son vieil ami Jordi. Le capitaine, autrefois professeur dans une des anciennes écoles militaires,
occupé par goût de grammaire et des différences entre les langues européennes, avait étudié le problème d'un langage universel. Ce savant homme, patient comme tous les vieux maîtres, se fit donc un bonheur d'apprendre à lire et à écrire à Ursule en lui apprenant la langue française et ce qu'elle devait savoir de calcul. La nombreuse bibliothèque du docteur permit de choisir entre les livres ceux qui pouvaient être lus par un enfant et qui devaient l'amuser en l'instruisant. Le militaire et le curé laissèrent cette intelligence s'enrichir avec l'aisance et la liberté que le docteur laissait au corps. Ursule apprenait en se jouant. La religion contenait la réflexion. Abandonnée à la divine culture d'un naturel amené dans des régions pures par ses trois prudents instituteurs, Ursule alla plus vers le sentiment que vers le devoir, et prit pour règle de conduite la voie de la conscience plutôt que la loi sociale. Chez elle, le beau dans les sentiments et dans les actions devait être spontané. Le jugement confirmerait l'élan du cœur. Elle était destinée à faire le bien comme un plaisir avant de le faire comme une obligation. Cette nuance est le propre de l'éducation chrétienne. Ces principes, tout autres que ceux à donner aux hommes, convenaient à une femme. Le génie et la conscience de la famille, l'élégance secrète de la vie domestique, enfin presque reine au sein du ménage. Tous trois procédèrent de la même manière avec cet enfant. Loin de reculer devant les audaces de l'innocence, ils expliquaient à Ursule la fin des choses et les moyens connus, en ne lui formulant jamais que des idées justes. Quand, à propos d'une herbe, d'une fleur, d'une étoile, elle allait droit à Dieu, le professeur et le médecin lui disaient que le prêtre seul pouvait lui répondre. Aucun d'eux n'empiéta sur le terrain des autres. Le parrain se chargeait de tout le bien-être matériel et des choses de la vie. L'instruction regardait Jordi. La morale, la métaphysique et les hautes questions appartenaient au curé. Cette belle éducation ne fut pas, comme il arrive souvent dans les maisons les plus riches, contrariée par d'imprudents serviteurs. La Bougival, sermonnée à ce sujet, et trop simple d'esprit d'ailleurs et de caractère pour intervenir, ne dérangea point l'œuvre de ces grands esprits. Ursule, créature privilégiée, eut donc autour d'elle trois bons génies, à qui son beau naturel rendit toute tâche douce et facile. Cette tendresse virile, cette gravité tempérée par les sourires, cette liberté sans danger, ce soin perpétuel de l'âme et du corps, firent d'elle, à l'âge de 9 ans, une enfant accomplie et charmante à voir. Par malheur, cette trinité paternelle se rompit. Dans l'année suivante, le vieux capitaine mourut, laissant au docteur et au curé son œuvre à continuer, après en avoir accompli la partie la plus difficile. Les fleurs devaient naître d'elles-mêmes dans un terrain si bien préparé. Le gentilhomme avait, pendant 9 ans, économisé 1 000 francs par an pour léguer 10 000 francs à sa petite Ursule, afin qu'elle conservât de lui un souvenir pendant toute sa vie. Dans un testament dont les motifs étaient touchants, il invitait sa légataire à se servir uniquement pour sa toilette des 400 ou 500 francs de rente que rendrait ce petit capital. Quand le juge de paix mit les scellés chez son vieil ami, on trouva dans un cabinet, où jamais il n'avait laissé pénétrer personne, une grande quantité de joujoux, dont beaucoup étaient brisés et qui tous avaient servi, des joujoux du temps passé, pieusement conservés, et que M. Bongrand devait brûler lui-même, à la prière du pauvre capitaine. Vers cette époque, elle dut faire sa première communion. L'abbé Chaperon employa toute une année à l'instruction de cette jeune fille, chez qui le cœur et l'intelligence, si développés, mais si prudemment maintenus l'un par l'autre, exigeaient une nourriture spirituelle particulière. Telle fut cette initiation à la connaissance des choses divines, que depuis cette époque où l'âme prend sa forme religieuse, Ursule devint la pieuse et mystique jeune fille dont le caractère fut toujours au-dessus des événements et dont le cœur domina toute adversité. Ce fut alors aussi que commença secrètement, entre cette vieillesse incrédule et cette enfance pleine de croyances, une lutte pendant longtemps inconnue à celle qui la provoqua, mais dont le dénouement occupait toute la ville et devait avoir tant d'influence sur l'avenir d'Ursule en déchaînant contre elle les collatéraux du docteur. Pendant les 6 premiers mois de l'année 1824, Ursule passa presque toutes ses matinées au presbytère. Le vieux médecin devina les intentions du curé. Le prêtre voulait faire d'Ursule un argument invincible. L'incrédule, aimé par sa filleule comme il l'eût été de sa propre fille, croirait à cette naïveté, serait séduit par les touchants effets de la religion dans l'âme d'une enfant dont l'amour ressemblait à ces arbres des climats indiens, toujours chargés de fleurs et de fruits, toujours verts et toujours embaumés. Une belle vie est plus puissante que le plus vigoureux raisonnement. On ne résiste pas au charme de certaines images. Aussi le docteur eut-il les yeux mouillés de larmes, sans savoir pourquoi, quand il vit la fille de son cœur partant pour l'église, habillée d'une robe de crêpe blanc, chaussée de souliers de satin blanc, parée de rubans blancs, la tête ceinte d'une bandelette royale attachée sur le côté par un gros nœud, les 1000 boucles de sa chevelure ruisselant sur ses belles épaules blanches, le corsage bordé d'une ruche ornée de comètes, les yeux étoilés par une première espérance, volant, grande et heureuse à une première union, aimant mieux son parrain depuis qu'elle s'était élevée jusqu'à Dieu. Quand il aperçut la pensée de l'éternité donnant la nourriture à cette âme, jusqu'alors dans les limbes de l'enfance, comme après la nuit le soleil donne la vie à la terre, toujours sans savoir pourquoi, il fut fâché de rester seul au logis. Assis sur les marges de son perron, il tint pendant longtemps ses yeux fixés sur la grille, entre les barreaux de laquelle sa pupille avait disparu, en lui disant « Parrain, pourquoi ne viens-tu pas ? Je serais donc heureuse sans toi ?» Quoiqu'ébranlé jusque dans ses racines, l'orgueil de l'encyclopédiste ne fléchit point encore. Il se promena cependant de façon à voir la procession des communiants et distingua sa petite Ursule brillante d'exaltation sous le voile. Elle lui lança un regard inspiré qui remua dans la partie rocheuse de son cœur le coin fermé à Dieu. Mais le déiste tint bon. Il se dit « Momerie ! Imaginez que s'il existe un ouvrier des mondes, cet organisateur de l'infini s'occupe de ses niaiseries. » Il rit et continua sa promenade sur les hauteurs qui dominent la route du Gâtinais, où les cloches sonnées en volée répandaient au loin la joie des familles. Le bruit du tric-trac est insupportable aux personnes qui ne savent pas ce jeu, l'un des plus difficiles qui existent. Pour ne pas ennuyer sa pupille, à qui l'excessive délicatesse de ses organes et de ses nerfs ne permettait pas d'entendre impunément ses mouvements et ce partage dont la raison est inconnue, le curé, le vieux Jordi, quand il vivait, et le docteur attendaient toujours que leur enfant fût couché ou en promenade. Il arrivait alors assez souvent que la partie était encore en train quand Ursule rentrait. Elle se résignait alors avec une grâce infinie et se mettait auprès de la fenêtre à travailler. Elle avait de la répugnance pour ce jeu, dont les commencements sont en effet rudes et inaccessibles à beaucoup d'intelligence, et si difficile à vaincre que, si l'on ne prend pas l'habitude de ce jeu pendant la jeunesse, il est presque impossible plus tard de l'apprendre. Or, le soir de sa première communion, quand Ursule revint chez son tuteur, seule pour cette soirée, elle mit le tric-trac devant le vieillard. « Voyons, à qui le dé ? » dit-elle. « Ursule, reprit le docteur, n'est-ce pas un péché de te moquer de ton parrain le jour de ta première communion ? »
Je ne me moque point, dit-elle en s'asseyant. Je me dois à vos plaisirs, vous qui veillez à tous les miens. Quand Monsieur Chaperon était condamné, il me donnait une leçon de trictrac, et il m'a donné tant de leçons que je suis en état de vous gagner. Vous ne vous gênerez plus pour moi. Pour ne pas entraver vos plaisirs, j'ai vaincu toutes les difficultés, et le bruit du trictrac me plaît. »
Ursule gagna.
Le curé vint surprendre les joueurs et jouir de son triomphe. Le lendemain, Minoret, qui jusqu'alors avait refusé de faire apprendre la musique à sa pupille, se rendit à Paris et acheta un piano, prit des arrangements à Fontainebleau avec une maîtresse et se soumit à l'ennui que devaient lui causer les perpétuelles études de sa pupille. Une des prédictions de feu Jordy, le phrénologiste, se réalisa. La petite fille devint excellente musicienne. Le tuteur, fier de sa filleule, faisait en ce moment venir de Paris, une fois par semaine, un vieil Allemand nommé Schmuck, un savant professeur de musique, et subvenait aux dépenses de cet art, d'abord jugé par lui tout à fait inutile en ménage. Les incrédules n'aiment pas la musique, céleste langage développé par le catholicisme, qui a pris les noms des sept notes dans un de ses hymnes. Chaque note est la première syllabe des sept premiers vers de l'hymne à Saint-Jean. Quoique vive, l'impression produite sur le vieillard par la première communion d'Ursule fut passagère. Le calme, le contentement que les œuvres de la religion et la prière répandaient dans cette âme jeune furent aussi des exemples sans force pour lui. Sans aucun sujet de remords ni de repentir, Minoret jouissait d'une sérénité parfaite. En accomplissant ses bienfaits, sans l'espoir d'une moisson céleste, il se trouvait plus grand que le catholique, auquel il reprochait toujours de faire de l'usure avec Dieu. « Mais, lui disait l'abbé Chaperon, si les hommes voulaient tous se livrer à ce commerce, avouez que la société serait parfaite, et il n'y aurait plus de malheureux. Pour être bienfaisant à votre manière, il faut être un grand philosophe. Vous vous élevez à votre doctrine par le raisonnement. Vous êtes une exception sociale. Tandis qu'il suffit d'être chrétien pour être bienfaisant à la nôtre. Chez vous, c'est un effort. Chez nous, c'est naturel. » « Cela veut dire, curé, que je pense et que vous sentez. Voilà tout. » Cependant, à 12 ans, Ursule, dont la finesse et l'adresse naturelle à la femme étaient exercées par une éducation supérieure et dont le sens dans toute sa fleur était éclairé par l'esprit religieux, de tous les genres d'esprit le plus délicat, finit par comprendre que son parrain ne croyait ni à un avenir, ni à l'immortalité de l'âme, ni à une providence, ni à Dieu. Pressé de questions par l'innocente créature, il fut impossible au docteur de cacher plus longtemps ce fatal secret. La naïve consternation d'Ursule le fit d'abord sourire. Mais en la voyant quelquefois triste, il comprit tout ce que cette tristesse annonçait d'affection. Les tendresses absolues ont horreur de toute espèce de désaccord, même dans les idées qui leur sont étrangères. Parfois, le docteur se prêta comme à des caresses aux raisons de sa fille adoptive, dite d'une voix tendre et douce, exhalée par le sentiment le plus ardent et le plus pur. Les croyants et les incrédules parlent deux langues différentes et ne peuvent se comprendre. La filleule, en plaidant la cause de Dieu, maltraitait son parrain, comme un enfant gâté maltraite quelquefois sa mère. Le curé blâma doucement Ursule et lui dit que Dieu se réservait d'humilier ses esprits superbes. La jeune fille répondit à l'abbé Chaperon que David avait abattu Goliath. Cette dissidence religieuse, ces regrets de l'enfant qui voulait entraîner son tuteur à Dieu, furent les seuls chagrins de cette vie intérieure, si douce et si pleine, dérobée au regard de la petite ville curieuse. Ursule grandissait, se développait, devenait la jeune fille modeste et chrétiennement instruite
que Désiré avait admiré au sortir de l'église. La culture des fleurs dans le jardin, la musique, les plaisirs de son tuteur et tous les petits soins qu'Ursule lui rendait, car elle avait soulagé la Bougival en s'occupant de lui, remplissaient les heures, les jours, les mois de cette existence calme. Néanmoins, depuis un an, quelques troubles chez Ursule avaient inquiété le docteur. Mais la cause en était si prévue qu'il ne s'en inquiéta que pour surveiller la santé. Cependant, cet observateur sagace, ce profond praticien, crut apercevoir que les troubles avaient eu quelque retentissement dans le moral. Il espionna maternellement sa pupille, ne vit autour d'elle personne digne de lui inspirer de l'amour, et son inquiétude passa. En ces conjonctures, un mois avant le jour où ce drame commence, il arriva dans la vie intellectuelle du docteur un de ces faits qui laboure jusqu'au tuf le champ des convictions et le retourne. Mais ce fait exige un récit succinct de quelques événements de sa carrière médicale, qui donnera d'ailleurs un nouvel intérêt à cette histoire. Vers la fin du XVIIIe siècle, la science fut aussi profondément divisée par l'apparition de Mesmer que l'art le fut par celle de Gluck. Après avoir retrouvé le magnétisme, Mesmer vint en France, où depuis un temps immémorial, les inventeurs accourent faire légitimer leurs découvertes. La France, grâce à son langage clair, est en quelque sorte la trompette du monde. Si l'homéopathie arrive à Paris, elle est sauvée, disait dernièrement Hahnemann. Allez en France, disait M. Metternich à Gall, et si l'on s'y moque de vos bosses, vous serez illustre. Mesmer eut donc des adeptes et des antagonistes aussi ardents que les piscinistes contre les gluckistes. La France savante s'émut, un débat solennel s'ouvrit. Avant l'arrêt, la faculté de médecine proscrivit en masse le prétendu charlatanisme de Mesmer, son baquet, ses fils conducteurs et ses théories. Mais, disons-le, cet Allemand compromit malheureusement sa magnifique découverte par d'énormes prétentions pécuniaires. Mesmer succomba par l'incertitude des faits, par l'ignorance du rôle que jouent dans la nature les fluides impondérables alors inobservés, par son inaptitude à rechercher les côtés d'une science à triple face. Le magnétisme a plus d'une application. Entre les mains de Mesmer, il fut, par rapport à son avenir, ce que le principe est aux effets. Mais si le trouveur manqua de génie, il est triste, pour la raison humaine et pour la France, d'avoir à constater qu'une science contemporaine des sociétés, également cultivée par l'Égypte et par la Chaldée, par la Grèce et par l'Inde, éprouva dans Paris en plein XVIIIe siècle le sort qu'avait eu la vérité dans la personne de Galilée au XVIe, et que le magnétisme y fut repoussé par les doubles atteintes des gens religieux et des philosophes matérialistes, également alarmés. Le magnétisme, la science favorite de Jésus et l'une des puissances divines remises aux apôtres, ne paraissait pas plus prévu par l'Église que par les disciples de Jean-Jacques et de Voltaire, de Locke et de Condillac. L'encyclopédie et le clergé ne s'accommodaient pas de ce vieux pouvoir humain qui sembla si nouveau. Les miracles des convulsionnaires étouffés par l'Église et par l'indifférence des savants, malgré les écrits précieux du conseiller Carré de Montgeron, furent une première sommation de faire des expériences sur les fluides humains qui donnent le pouvoir d'opposer à ces deux forces intérieures pour annuler les douleurs causées par des agents extérieurs. Mais il aurait fallu reconnaître l'existence de fluides intangibles, invisibles, impondérables. Trois négations dans lesquelles la science d'alors voulait voir une définition du vide. Dans la philosophie moderne, le vide n'existe pas. 10 pieds de vide, le monde croule. Surtout pour les matérialistes, le monde est plein, tout se tient, tout s'enchaîne et tout est machiné.
Le monde, disait Diderot, comme effet du hasard, est plus explicable que Dieu. La multiplicité des causes et le nombre incommensurable de jets que suppose le hasard expliquent la création. Soit donné l'Énéide et tous les caractères nécessaires à sa composition, si vous m'offrez le temps et l'espace, à force de jeter les lettres, j'atteindrai la combinaison Énéide. Ces malheureux, qui déifiaient tout plutôt que d'admettre un dieu, reculaient aussi devant la divisibilité infinie de la matière que comporte la nature des forces impondérables. Locke et Condillac ont alors retardé de 50 ans l'immense progrès que font en ce moment les sciences naturelles, sous la pensée d'unité due au grand Geoffroy Saint-Hilaire. Quelques gens droits, sans système, convaincus par des faits consciencieusement étudiés, persévérèrent dans la doctrine de Mesmer, qui reconnaissait en l'homme l'existence d'une influence pénétrante, dominatrice d'homme à homme, mise en œuvre par la volonté, curative par l'abondance du fluide, et dont le jeu constitue un duel entre deux volontés, entre un mal à guérir et le vouloir de guérir. Les phénomènes du somnambulisme, à peine soupçonnés par Mesmer, furent dus à messieurs de Puységur et de Leuze. Mais la Révolution mit à ses découvertes un temps d'arrêt qui donna gain de cause aux savants et aux railleurs. Parmi le petit nombre des croyants se trouvèrent des médecins. Ces dissidents furent, jusqu'à leur mort, persécutés par leurs confrères. Le corps respectable des médecins de Paris déploya contre les mesmériens les rigueurs des guerres religieuses et fut aussi cruel dans sa haine contre eux qu'il était possible de l'être dans ce temps de tolérance voltairienne. Les docteurs orthodoxes refusaient de consulter avec les docteurs qui tenaient pour l'hérésie mesmérienne. En 1820, ces prétendus hérésiarques étaient encore l'objet de cette proscription sourde. Les malheurs, les orages de la Révolution n'éteignirent pas cette haine scientifique. Il n'y a que les prêtres, les magistrats et les médecins pour haïr ainsi. La robe est toujours terrible. Mais aussi les idées ne seraient-elles pas plus implacables que les choses? Le docteur Bouvard, ami de Minoret, donna dans la foi nouvelle et persévéra jusqu'à sa mort dans la science à laquelle il avait sacrifié le repos de sa vie, car il fut une des bêtes noires de la faculté de Paris. Minoret, l'un des plus vaillants soutiens des encyclopédistes, le plus redoutable adversaire de Deslon, le prévôt de Mesmer, et dont la plume fut d'un poids énorme dans cette querelle, se brouilla sans retour avec son camarade. Mais il fit plus, il le persécuta. Sa conduite avec Bouvard devait lui causer le seul repentir qui pût troubler la sérénité de son déclin. Depuis la retraite du docteur Minoret à Nemours, la science des fluides impondérables, seul nom qui convienne au magnétisme, si étroitement lié par la nature de ces phénomènes à la lumière et à l'électricité, faisait d'immenses progrès, malgré les continuelles railleries de la science parisienne. La phrénologie et la physiognomie, la science de Galli et celle de Lavater, qui sont jumelles, dont l'une est à l'autre ce que la cause est à l'effet, démontraient aux yeux de plus d'un physiologiste les traces du fluide insaisissable, base des phénomènes de la volonté humaine, et d'où résultent les passions, les habitudes, les formes du visage et celles du crâne. Enfin, les faits magnétiques, les miracles du somnambulisme, ceux de la divination et de l'extase, qui permettent de pénétrer dans le monde spirituel, s'accumulaient. L'histoire étrange des apparitions du fermier Martin, si bien constatée, et l'entrevue de ce paysan avec Louis XVIII, la connaissance des relations de Swedenborg avec les morts, si sérieusement établie en Allemagne, les récits de Walter Scott sur les effets de la seconde vue, l'exercice des prodigieuses facultés de quelques 10 heures de bonne aventure, qui confondent en une seule science la chiromancie, la cartomancie et l'horoscopie,
l'effet de la catalepsie et ceux de la mise en œuvre des propriétés du diaphragme par certaines affections morbides. Ces phénomènes, au moins curieux, tous émanés de la même source, sapaient bien des doutes, emmenaient les plus indifférents sur le terrain des expériences. Minoret ignorait ce mouvement des esprits, si grand dans le nord de l'Europe, encore si faible en France, où se passaient néanmoins de ces faits qualifiés de merveilleux par les observateurs superficiels, et qui tombent comme des pierres au fond de la mer dans le tourbillon des événements parisiens. Au commencement de cette année, le repos de l'anti-mesmérien fut troublé par la lettre suivante.
Mon vieux camarade, toute amitié, même perdue, a des droits qui se prescrivent difficilement. Je sais que vous vivez encore, et je me souviens moins de notre inimitié que de nos beaux jours au taudis de Saint-Julien le Pauvre. Au moment de m'en aller de ce monde, je tiens à vous prouver que le magnétisme va constituer une des sciences les plus importantes, si toutefois la science ne doit pas être une. Je puis foudroyer votre incrédulité par des preuves positives. Peut-être devrais-je à votre curiosité le bonheur de vous serrer encore une fois la main, comme nous nous la serrions avant Mesmer. Toujours à vous, Bouvard.
Piqué comme l'est un lion par un temps, l'anti-mesmérien bondit jusqu'à Paris et mit sa carte chez le vieux Bouvard, qui demeurait rue Ferron, près de Saint-Sulpice. Bouvard lui mit une carte à son hôtel en lui écrivant « Demain, à 9 heures, rue Saint-Honoré, en face l'Assomption. » Minoret, redevenu jeune, ne dormit pas. Il alla voir les vieux médecins de sa connaissance et leur demanda si le monde était bouleversé, si la médecine avait eu une école, si les quatre facultés vivaient encore. Les médecins le rassurèrent en lui disant que le vieil esprit de résistance existait. Seulement, au lieu de persécuter, l'Académie de médecine et l'Académie des sciences pouffaient de rire en rangeant les faits magnétiques parmi les surprises de Camus, de Comte, de Bosco, dans les jongleries, la prestidigitation et ce qu'on nomme la physique amusante. Ces discours n'empêchèrent point le vieux Minoret d'aller au rendez-vous que lui donnait le vieux Bouvard. Après 44 années d'inimitié, les deux antagonistes se revirent sous une porte cochère de la rue Saint-Honoré. Les Français sont trop continuellement distraits pour se haïr pendant longtemps. À Paris surtout, les faits étendent trop l'espace et font en politique, en littérature et en science la vie trop vaste pour que les hommes n'y trouvent pas des pays à conquérir où leurs prétentions peuvent régner à l'aise. La haine exige tant de forces toujours armées que l'on s'y met plusieurs quand on veut haïr pendant longtemps. Ainsi, les corps peuvent-ils seuls y voir de la mémoire? Après 44 ans, Robespierre et Danton s'embrasseraient. Cependant, chacun des deux docteurs garda sa main sans l'offrir. Bouvard le premier dit à Minoret « Tu te portes à ravir !»«
Oui, pas mal. Et toi ?»
répondit Minoret une fois la glace rompue.
« Moi, comme tu vois. »«
Le magnétisme empêche-t-il de mourir ?» demanda Minoret d'un ton plaisant mais sans aigreur.
« Non, mais il a failli m'empêcher de vivre. »«
Tu n'es donc pas riche ?» fit Minoret.
« Bah ! » fit Bouvard.
« Eh bien, je suis riche, moi !» s'écria Minoret.
« Ce n'est pas à ta fortune, mais à ta conviction que j'en veux. Viens !» répondit Bouvard.
« Oh, l'entêté !» s'écria Minoret. Le mesmérien entraîna l'incrédule dans un escalier assez obscur et le lui fit monter avec précaution jusqu'au 4e étage. En ce moment, se produisait à Paris un homme extraordinaire, doué par la foi d'une incalculable puissance et disposant des pouvoirs magnétiques dans toutes leurs applications. Non seulement ce grand inconnu, qui vit encore, guérissait par lui-même, à distance, les maladies les plus cruelles, les plus invétérées, soudainement et radicalement, comme jadis le sauveur des hommes,
mais encore ils produisaient instantanément les phénomènes les plus curieux du somnambulisme en domptant les volontés les plus rebelles. La physionomie de cet inconnu, qui dit ne relever que de Dieu et communiquer avec les anges comme Swedenborg, est celle du lion. Il y éclate une énergie concentrée, irrésistible. Ses traits, singulièrement contournés, ont un aspect terrible et foudroyant. Sa voix, qui vient des profondeurs de l'être, est comme chargée de fluide magnétique. Elle entre en l'auditeur par tous les pores. Dégoûté de l'ingratitude publique après des milliers de guérisons, il s'est rejeté dans une impénétrable solitude, dans un néant volontaire. Sa toute-puissante main, qui a rendu des filles mourantes à leurs mères, des pères à leurs enfants éplorés, des maîtresses idolâtrées à des amants ivres d'amour, qui a guéri les malades abandonnés par les médecins, qui faisait chanter des hymnes dans les synagogues, dans les temples et dans les églises par des prêtres de différents cultes, ramenés tous au même Dieu par le même miracle, qui adoucissait les agonies aux mourants chez lesquels la vie était impossible. Cette main souveraine, soleil de vie qui éblouissait les yeux fermés des somnambules, ne se lèverait pas pour rendre un héritier présomptif à une reine. Enveloppé dans le souvenir de ses bienfaits, comme dans un suaire lumineux, il se refuse au monde et vit dans le ciel. Mais à l'aurore de son règne, surpris presque de son pouvoir, cet homme, dont le désintéressement a égalé la puissance, permettait à quelques curieux d'être témoins de ses miracles. Le bruit de cette renommée, qui fut immense et qui pourrait renaître demain, réveilla le docteur Bouvard sur le bord de la tombe. Le mesmérien, persécuté, put enfin voir les phénomènes les plus radieux de cette science, gardée en son cœur comme un trésor. Les malheurs de ce vieillard avaient ému le grand inconnu, qui lui donna quelques privilèges. Aussi, Bouvard subissait-il, en montant l'escalier, les plaisanteries de son vieil antagoniste avec une joie malicieuse. Il ne lui répondit que par des « Tu vas voir, tu vas voir » et par ces petits hochements de tête que se permettent les gens sûrs de leur fête. Les deux docteurs entrèrent dans un appartement plus que modeste. Bouvard alla parler pendant un moment dans une chambre à coucher contiguë au salon où attendait Minoret, dont la défiance s'éveilla. Mais Bouvard vint aussitôt le prendre et l'introduisit dans cette chambre, où se trouvait le mystérieux Swedenborgiste et une femme, assise dans un fauteuil. Cette femme ne se leva point et ne parut pas s'apercevoir de l'entrée des deux vieillards. « Comment ? Plus de baquet ?» fit Minoret en souriant. « Rien que le pouvoir de Dieu !» répondit gravement le Swedenborgiste, qui parut à Minoret être âgé de 50 ans. Les trois hommes s'assirent, et l'inconnu se mit à causer. On parla pluie et beau temps, à la grande surprise du vieux Minoret, qui se crut mystifié. Le Swedenborgiste questionna le visiteur sur ses opinions scientifiques, et semblait évidemment prendre le temps de l'examiner. « Vous venez ici en simple curieux, monsieur ?» dit-il enfin. « Je n'ai pas l'habitude de prostituer une puissance qui, dans ma conviction, émane de Dieu. Si j'en faisais un usage frivole ou mauvais, elle pourrait m'être retirée. Néanmoins, il s'agit, m'a dit M. Bouvard, de changer une conviction contraire à la nôtre et d'éclairer un savant de bonne foi. Je vais donc vous satisfaire. Cette femme que vous voyez, dit-il en montrant l'inconnu, est dans le sommeil somnambulique. D'après les aveux et les manifestations de tous les somnambules, cet état constitue une vie délicieuse pendant laquelle l'être intérieur, dégagé de toutes les entraves apportées à l'exercice de ses facultés par la nature visible, se promène dans le monde que nous nommons invisible à tort. La vue et l'ouïe s'exercent alors d'une manière plus parfaite que dans l'état dit de veille, et peut-être sans le secours des organes, qui sont la gaine de ces épées lumineuses appelées la vue et l'ouïe. Pour l'homme, mis dans cet état, les distances et les obstacles matériels n'existent pas, ou sont traversés par une vie qui est en nous, et pour laquelle notre corps est un réservoir, un point d'appui nécessaire, une enveloppe. Les termes manquent pour des effets si nouvellement retrouvés, car aujourd'hui, les mots impondérables, intangibles, invisibles, n'ont aucun sens relativement au fluide dont l'action est démontrée par le magnétisme. La lumière est pondérable par sa chaleur, qui, en pénétrant les corps, augmente leur volume. Et certes, l'électricité n'est que trop tangible. Nous avons condamné les choses au lieu d'accuser l'imperfection de nos instruments. « Elle dort ?» dit Minoret en examinant la femme, qui lui parut appartenir à la classe inférieure. « Son corps est en quelque sorte annulé, » répondit le Swedenborgiste. « Les ignorants prennent cet état pour le sommeil, mais elle va vous prouver qu'il existe un univers spirituel et que l'esprit n'y reconnaît point les lois de l'univers matériel. Je l'enverrai dans la région où vous voudrez qu'elle aille, à 20 lieues d'ici, comme en Chine. Elle vous dira ce qui s'y passe.
« Envoyez-la seulement chez moi, à Nemours, » demanda Minoret. « Je n'y veux être pour rien, » répondit l'homme mystérieux.
« Donnez-moi votre main. Vous serez à la fois acteur et spectateur, effet et cause. » Il prit la main de Minoret, que Minoret lui laissa prendre. Il la tint pendant un moment en paraissant se recueillir, et de son autre main, il saisit la main de la femme assise dans le fauteuil. Puis il mit celle du docteur dans celle de la femme, en faisant signe au vieil incrédule de s'asseoir à côté de cette pythonisse sans trépied. Minoret remarqua dans les traits excessivement calmes de cette femme un léger tressaillement quand ils furent unis par le Swedenborgiste. Mais ce mouvement, quoique merveilleux dans ses effets, fut d'une grande simplicité.
« Obéissez à monsieur, » lui dit ce personnage en étendant la main sur la tête de la femme qui parut aspirer de lui la lumière et la vie. « Et songez que tout ce que vous ferez pour lui me plaira. « Vous pouvez lui parler maintenant, » dit-il à Minoret.
« Allez à Nemours, rue des Bourgeois, chez moi, » dit le docteur.
« Donnez-lui le temps, laissez votre main dans la sienne, jusqu'à ce qu'elle vous prouve par ce qu'elle vous dira qu'elle y est arrivée, » dit Bouvard à son ancien ami.
« Je vois une rivière, » répondit la femme d'une voix faible, en paraissant regarder en dedans d'elle-même avec une profonde attention, malgré ses paupières baissées. « Je vois un joli jardin. »
« Pourquoi entrez-vous par la rivière et par le jardin ?» dit Minoret.
« Parce qu'elles y sont.
Qui ?»«
La jeune personne et la nourrice auxquelles vous pensez. »«
Comment est le jardin ?» demanda Minoret.
« En y entrant par le petit escalier qui descend sur la rivière, il se trouve à droite une longue galerie en briques dans laquelle je vois des livres. » et terminé par un cabajoutis orné de sonnettes en bois et de rouge. À gauche, le mur est revêtu d'un massif de plantes grimpantes, de la vigne vierge, du jasmin de Virginie. Au milieu se trouve un petit cadran solaire. Il y a beaucoup de pots de fleurs. Votre pupille examine ces fleurs, les montre à sa nourrice, fait des trous avec un plantoir et y met des graines. La nourrice ratisse les allées. Quoique la pureté de cette jeune fille soit celle d'un ange, il y a chez elle un commencement d'amour, faible comme un crépuscule du matin.
« Pour qui ?» demanda le docteur, qui jusqu'à présent n'entendait rien que personne ne put lui dire sans être somnambule. Il croyait toujours à de la jonglerie.
« Vous n'en savez rien ?» quoique vous ayez été dernièrement assez inquiet quand elle est devenue femme, dit-elle en souriant. Le mouvement de son cœur a suivi celui de la nature. « Et c'est une femme du peuple qui parle ainsi ?» s'écria le vieux docteur.
Dans cet état, toutes s'expriment avec une limpidité particulière, répondit Bouvard.
Mais qui Ursule aime-t-elle?
Ursule ne sait pas qu'elle aime, répondit avec un petit mouvement de tête la femme. Elle est bien trop angélique pour connaître le désir ou quoi que ce soit de l'amour. Mais elle est occupée de lui, elle pense à lui, elle s'en défend même. Elle y revient malgré sa volonté de s'abstenir. Elle est au piano.
Mais qui est-ce?
Le fils d'une dame qui demeure en face.
Madame de Portenduère?
Portenduère, dites-vous, reprit la somnambule. Je le veux bien, mais il n'y a pas de danger, il n'est point dans le pays.
Se sont-ils parlé?
Demanda le docteur.
« Jamais. Ils se sont regardés l'un l'autre. Elle le trouve charmant.
Il est en effet joli homme. Il a bon cœur. Elle l'a vu de sa croisée. Ils se sont vus aussi à l'église. Mais le jeune homme n'y pense plus. »
« Son nom ?»«
Ah, pour vous le dire, il faut que je le lise ou que je l'entende. Il se nomme Savinien. Elle vient de prononcer son nom. Elle le trouve doux à prononcer. » Elle a déjà regardé dans l'almanach le jour de sa fête. Elle y a fait un petit point rouge. Des enfantillages. Oh, elle aimera bien, mais avec autant de pureté que de force. Elle n'est pas fille à aimer deux fois. Et l'amour teindra son âme et la pénétrera si bien qu'elle repousserait tout autre sentiment.
Où voyez-vous cela?
En elle. Elle saura souffrir, elle a de qui tenir, car son père et sa mère ont bien souffert.
Ce dernier mot renversa le docteur, qui fut moins ébranlé que surpris. Il n'est pas inutile de faire observer qu'entre chaque phrase de la femme, il s'écoulait de 10 à 15 minutes, pendant lesquelles son attention se concentrait de plus en plus. On la voyait voyant. Son front présentait des aspects singuliers. Il s'y peignait des efforts intérieurs. Il s'éclaircissait ou se contractait par une puissance dont les effets n'avaient été remarqués par Minoret que chez les mourants, dans les instants où ils sont doués du don de prophétie. Elle fit à plusieurs reprises des gestes qui ressemblaient à ceux d'Ursule.
« Oh, questionnez-la !»
reprit le mystérieux personnage en s'adressant à Minoret. Elle vous dira les secrets que vous pouvez seule connaître.
« Ursule m'aime ?»
reprit Minoret.
« Presque autant que Dieu, »
dit-elle avec un sourire.
« Aussi est-elle bien malheureuse de votre incrédulité. Vous ne croyez pas en Dieu, comme si vous pouviez empêcher qu'il soit. Sa parole emplit les mondes. Vous causez ainsi les seuls tourments de cette pauvre enfant. Tiens, elle fait des gammes. Elle voudrait être encore meilleure musicienne qu'elle ne l'est. Elle se dépite. Voici ce qu'elle pense. Si je chantais bien, si j'avais une belle voix, quand il sera chez sa mère, ma voix irait bien jusqu'à son oreille. »
Le docteur Minoret prit son portefeuille et nota l'heure précise.
« Pouvez-vous me dire quelles sont les graines qu'elle a semées ?»«
Du réséda, des points de senteur, des balsamines. »«
En dernier ?»«
Des pieds d'alouette. »«
Où est mon argent ?»«
Chez votre notaire. Mais vous le placez à mesure sans perdre un seul jour d'intérêt. »«
Oui, mais où est l'argent que je garde à Nemours pour ma dépense du semestre ?»
« Vous le mettez dans un grand livre, relié en rouge, intitulé « Pandecte de Justinien, tome 2, entre les deux avant-derniers feuillets. Le livre est au-dessus du buffet vitré, dans la case au in-folio. Vous en avez toute une rangée. Vos fonds sont dans le dernier volume, du côté du salon. Tiens, le tome 3 est avant le tome 2. Mais vous n'avez pas d'argent, c'est des... »
« Billets de 1000 francs ?»
demanda le docteur.
Je ne vois pas bien. Ils sont pliés. Non, il y a 2 billets de chacun 500 francs.
Vous les voyez?
Oui.
Comment sont-ils?
Il y en a un très jaune et vieux, l'autre blanc et presque neuf.
Cette dernière partie de l'interrogatoire foudroya le docteur Minoret. Il regarda Bouvard d'un air hébété, mais Bouvard et le Swedenborgiste, familiarisés avec l'étonnement des incrédules, causaient à voix basse sans paraître ni surpris ni étonnés. Minoret les pria de lui permettre de revenir après le dîner. L'anti-mesmérien voulait se recueillir, se remettre de sa profonde terreur, pour éprouver de nouveau ce pouvoir immense, le soumettre à des expériences décisives, lui poser des questions dont la solution enleva toute espèce de doute.
« Soyez ici à 9 heures ce soir, » dit l'inconnu. « Je reviendrai pour vous. »